Vous venez nous parler de votre livre Vania, Vassia et la fille de Vassia, qui évoque le destin croisé de trois personnages, dont Sonia, avec qui vous avez beaucoup de points communs. C'était important pour vous, ce roman ?
Ah oui, très, parce que depuis que j'écris, ça fait une paye hein, maintenant, ça fait 25 ans au moins, tous les éditeurs me demandaient d'écrire sur ma famille, parce que je suis une descendante de grande famille russe, je suis princesse.
Vous êtes noble.
Et d'ailleurs, ça m'a collé à la peau toute ma vie. Hein. On n'arrêtait pas de m'appeler princesse, pas chez vous, mais Bouvard, il ne se gênait pas. Il y avait toujours ce petit côté un peu péjoratif, mais en même temps admiratif. Alors, c'était non. Parce que, je ne sais pas, moi je suis née en France, je suis fille d'émigrés, on était très pauvres. Mais par contre, toute mon enfance, j'ai été bercée par des histoires de Russie. Et puis vous savez, les gens, les immigrés, quand ils ont beaucoup souffert, c'est le cas des familles russes, hein, quand même, après la Révolution et après tous les crimes de Staline, ma famille en Russie a été déportée en Sibérie, etc. Mes parents, ils nous protégeaient. J'ai deux sœurs et moi, et ils ne nous racontaient pas trop ce qui se passait en Russie parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit comme ça accablés par leur malheur. Mais quand même, je soupçonnais des choses. Et quand j'ai commencé à étudier un petit peu la situation, après la chute du mur, quand on a commencé un peu à savoir ce qui s'était passé en Russie, on s'est aperçu que c'était vraiment une catastrophique. Il y avait en France beaucoup d'émigrés russes et entre autres des communautés cosaques. Alors des cosaques qui ne sont pas comme nous. Moi, j'étais dans une émigration de gens cultivés, cosmopolites. Mon père avait dit « il y en a pour 100 ans ». Donc il ne s'était pas tellement trompé. Tandis que les cosaques, qui étaient un ordre militaire, hein, ce n'était pas une ethnie, ce n'était pas géographique, c'était des soldats. Il y avait des communautés un peu partout en France. Il y en avait en Ardèche, il y en avait dans les Alpes-Maritimes, il y en avait dans le Midi, il y en avait en Corrèze. Et alors, eux, ils vivaient entre eux, ils n'apprenaient pas le français, ils ne faisaient pas de vagues, parce qu'ils étaient très dignes, ils ne voulaient surtout pas déranger les Français.
C'était des anciens soldats du Tsar, en fait.
Et c'était l'armée impériale. Alors, c'était les premiers qui ont été éjectés, évidemment, après la Révolution. Ils étaient orthodoxes, tsaristes, et en plus très très compétents, et ils connaissaient vraiment l'armée russe. Quelques-uns avaient voulu entrer dans l'armée rouge, par patriotisme, et ils avaient été éjectés aussi.
Alors ce roman, Macha Merit, c'est une saga familiale qui traverse les siècles, c'est un auteur voilà. N'emporte le vent.
Alors j'ai choisi une héroïne qui a des points communs avec moi évidemment, mais qui est née
Sonia.
En 29, moi je suis née beaucoup plus tard, et le livre commence en 39 et finit aujourd'hui. Et si vous voulez, j'ai traversé le siècle dans les yeux et dans la vie d'une jeune émigrée russe, parce que je continue à penser que l'ascenseur social en France, ça existe. Et qu'être immigré, ça peut être une chance. Ce n'est pas forcément un drame.
Alors, vous dites que ce livre, vous l'avez écrit tout d'une traite, 400 pages. Vous étiez tout d'un coup, quand vous avez trouvé le sujet, c'est comme si ça vous a habité, c'est sorti de vous, ça a jailli. Et vous êtes trouvé avec 400 pages comme ça.
Il faut que je vous explique pourquoi. Parce que j'étais au chevet de Michel Legrand, mon mari, qui, je savais, il déclinait, je savais que c'était la fin. Et alors Michel, tout le temps que nous avons vécu ensemble, il me disait tout le temps « Alors tu écris ? Qu'est-ce que tu écris ? T'as trouvé ton sujet ?» Il était exaspérant parce qu'il voulait de moi le meilleur. Et je savais que comme j'étais très occupée par sa vie matérielle, par sa santé, etc., ça s'était un petit peu éloigné l'écriture. Et puis tout d'un coup, j'ai eu cette idée, non pas de raconter ma vie, mais de raconter la vie d'une fille de cosaque. Donc quelque chose de très romanesque, de très coloré. Et à son chevet, j'ai réussi à lui faire lire les 100 premières pages. Et il était très heureux parce qu'il sentait que j'étais sur mon chemin. Et vous savez, on dit beaucoup de bêtises sur la séparation et sur le deuil. Bien sûr, c'est un drame épouvantable, un chagrin insoutenable. Mais en même temps, c'est une espèce de force. Parce que quand quelqu'un s'en va, il est dans une sorte de perfection, dans un moment très pur. Et les gens qui sont autour, surtout les très proches, on est avec eux. On est à ce niveau-là, très haut. Et quand il est parti, moi je suis restée, là-haut. Et il fallait maintenant que je ne fasse que des choses exceptionnelles. Alors, ne me parlez plus de ce que j'étais il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce que je ne suis plus la même. Je suis une femme bien plus intéressante, beaucoup plus talentueuse et beaucoup plus courageuse surtout. C'est-à-dire que je vais oser dire et faire des choses que je n'ai pas dites jusqu'à maintenant.
Et alors, votre héroïne, Sonia, traverse le siècle et elle croise des personnages historiques connus que vous évoquez. Mm-hmm. Et notamment, à un moment, elle se fait marier par François Hollande à Tulle.
Alors, j'ai une petite trouvaille littéraire.
Que des réussites.
Une petite trouvaille que je n'ai pas inventée parce qu'elle a déjà été utilisée, mais je pense qu'elle était très appliquée à mon roman. C'est que je mélange de la fiction avec des faits réels et des personnages réels que j'ai connus. Alors, je fais croiser Mendès France, François Hollande, moi-même. moi-même. Je suis dans le livre comme personnalité française, hein, parce que quand même, j'ai eu mon heure dans un certain moment. Et donc, tout ça fait un style un peu vivant et surtout qui nous rappelle, et surtout vous, vous êtes tous trop jeunes là, vous n'étiez pas nés quand je commençais à faire du cinéma. Mais pour ceux qui ont un peu mon âge, c'est de se rappeler de moments très importants qui ont fait la France d'aujourd'hui et qui ont fait aussi la beauté de la France d'aujourd'hui. J'aime la France, je veux qu'on le dise, parce qu'elle nous donne des chances qu'aucun autre pays nous donne. À nous les émigrés, mais aux Français aussi. Alors, soyez formidables, aimez la France et allez voter.
Je vais voter pour vous, moi.
Ah, voilà.
Alors, Masha Meryl, est-ce qu'on peut dire votre âge ou ça vous ennuie?
Ah, pas du tout, je vais avoir 80 ans cette année.
Comment vous faites pour être...
Ah, j'ai quelques trucs.
Ah oui?
Pas de sport.
Ah. Ah. On est bon, on est bon, c'est bon. Bon.
Alors ça, c'est devenu une industrie. Ils nous cassent les pieds avec ça. Tous ces gens suants qui courent et puis surtout qui nous méprisent parce que quand on fait pas de sport. C'est par contre être active, faire beaucoup de choses. Par exemple, quand je monte un escalier, quand il y a un ascenseur, je prends l'escalier quand même. Voilà. Alors pas de sport, mais la vie. Deuxièmement,
donc prendre les escaliers.
Oui, il faut dormir. Il faut dormir.
Et oui, ça, c'est le problème.
Ça, c'est très important. Et puis, tant pis si on dort un peu plus que ce qui est permis. Il faut dormir. Il faut manger convenablement. Mais ça, j'en ai beaucoup parlé dans ma vie. Et ça continue plus que jamais. Et pas que des légumes. Hein. Merde, il faut manger aussi d'autres choses.
Pas que des légumes.
Elle mange que des légumes.
Non, je mange pas.
Il faut arrêter ça. Bon. Hein.
Il faut manger de tout. Il faut manger de tout. Ouais. Sauf, ouais. Et puis, il faut s'intéresser aux autres. Il faut être curieux. Parce que l'amour...
Ah, ça aussi.
Et l'amitié, parce que c'est l'amitié aussi, c'est vouloir que l'autre soit plus content que toi.
L'amour, ça veut dire que c'est, je dois...
Et oui.
C'est ma copine qui doit être plus contente que moi.
S'il te plaît.
C'est pour ça que ça n'a pas marché. Moi, j'étais toujours très content, mais elle est moins contente. C'est bizarre. Hein. C'est pour ça que
et
ça n'a pas marché.
Je vous assure, c'est un truc, ça marche, c'est merveilleux. Bah ouais. Parce que du coup, on s'oublie un peu. Ah. On oublie ses bobos, on oublie ses...
Les journées, les choses.
Vous n'avez pas bonne mine d'ailleurs. Hein.
On lui dit ça depuis tout à l'heure, il est en panique.
Il était jaune, maintenant il est vert. Vous ne votez plus pour moi, c'est fini.
J'essayais de mettre un peu de bonne humeur dans tout ça. Vous n'allez plus m'entendre de l'émission.
Alors, Masha Meryl, revenons aux Cosaques. Vous racontez que les Cosaques trouvaient rapidement du travail parce qu'ils étaient dociles et zélés. Est-ce que vous ne connaîtriez pas des chroniqueurs Cosaques? C'est pas pour moi, c'est pour une amie.
Merci.
Ah, hélas, ils ne sont plus de ce monde. Vous savez, c'est une communauté qui s'est délitée, qui s'est fondue à la société française. Il n'y en a plus.
Alors,
il y en a encore quelques-uns, quand même, dans un petit village qui s'appelle Chalette-sur-Loing.
Vous en avez retrouvé, là.
On les retrouvés, qui m'ont d'ailleurs raconté des histoires que j'ai pu mettre dans le livre. Par exemple, il y avait un type qui était chargé dans une usine à Hutchinson. Il était chargé de tester les bottes en caoutchouc. Et alors, il marchait toute la journée avec ses bottes en caoutchouc. Il est même devenu marathonien. Il a gagné un marathon. Et pour vous dire à quel point ils étaient obéissants et travailleurs.
Courageux.
Ils ne faisaient pas de vagues, ils ne faisaient pas de grève. Donc
et les Cosaques, Masha Meryl, ça devait être des amants parfaits. Est-ce qu'ils gardent leurs bottes et leurs chapeaux quand ils sont au lit? C'est pas pour moi, c'est pour une autre amie.
Décidément.
Écoutez, peu importe. En tout cas, qu'ils ne se filment pas. Parce que ça, je pense que c'est encore un truc de mec, ça. C'est pour montrer leur puissance.
On vous a jamais envoyé de vidéo coquine, Masha Meryl?
Jamais. Puis moi, écoutez, je pense avoir eu une sexualité assez réjouissante.
C'est vrai.
Jamais j'ai pensé me filmer. Non. C'est pas un truc de femme, ça. Tu filmes, toi?
Ah non, 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 non.
Bah alors.
Je vais quand même noter votre 06.
J'ai lu quelque part qu'une fois, vous aviez fait l'amour non-stop pendant toute une semaine. C'est vrai ou c'est la légende?
Non, c'est vrai. Ça vous embête un peu.
Moi, j'ai une question.
Comment ça se passe?
Parce qu'il y a des histoires qui sont plus sexuées que d'autres.
Ça, c'est vrai.
Oui, elle aussi. Elle aussi. Elle, 24 heures, peut-être.
Oh, ça y est, c'est renversé de l'eau.
C'est-à-dire que je crois que dans l'émancipation des femmes, je vais te faire un petit cours
avec
magistral.
Avec plaisir.
Il y a aussi que les femmes ont le droit d'avoir de la curiosité pour une expérience qui n'est pas strictement l'homme de ta vie, l'homme avec lequel tu vas faire tes enfants, mais d'autres choses. Et ça, c'est la grande nouveauté. Et c'est parce que je suis de ma génération, parce que moi, j'étais à cheval de 68, et 68, ça a été ça. C'est pas 68, d'ailleurs, c'est 66, c'est la pilule.
Ah. Ah, j'aurais dit 69, moi.
Ah, oui, mais ça, c'est de l'humour de balle, ça.
Comment on fait pour percer dans l'humour quand il y a tellement d'humoristes?
On frappe. Moi, j'ai beaucoup frappé. Sur le... J'ai l'avantage d'avoir un physique qui me permet de le faire. Et non, non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi. Moi, je me suis toujours dit que je voulais pas aborder les sujets que tout le monde prend. Voilà, je me suis interdit le métro, le couple, toutes ces choses-là parce que j'avais pas envie de faire entre guillemets les mêmes choses. Mais voilà.
Vous interdisez rien sur scène.
Non.
Les limites de l'humour, ça vous casse les pieds, Artus.
Ah ben, je suis côté sale gosse. C'est-à-dire que justement, si on me dit, faut pas que t'appuies là-dessus, moi, j'ai envie d'appuyer. Donc clairement oui, et aujourd'hui comme on est dans une époque, je trouve, où on a encore plus de censure, encore plus de tu fais tomber une salière, t'as une association du sel qui te dit hey, faut pas faire tomber les salières, donc oui, j'ai encore plus envie d'y aller.
Vous avez gardé les mêmes copains malgré le succès?
Ah ben pour le coup oui, mon régisseur c'est mon meilleur ami depuis le CM1, ça fait 24 ans qu'on se quitte pas. Je travaille avec ma chérie, avec mes parents, en famille, donc oui, non, je veux.
Vous êtes très proche de vos parents?
Tout à fait.
Vous avez le même humour un peu trash.
Bah oui, c'était.
Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes dans un dîner avec votre mère? Qu'est-ce que vous faites croire aux gens?
Bah déjà, je lui demande si elle aime ce que je fais, puisqu'on couche ensemble aussi avec moi. Faut le savoir.
Ça, vous dites ça dans les dîners. Vous arrivez, les gens vous connaissent pas, et vous dites, vous faites croire aux gens que vous couchez.
On aime bien un peu mettre des malaises, mais parce que j'ai grandi avec ça. Mon père, moi, je me souviens de soirées où mon père à un moment disparaissait dans le truc et il revenait avec deux potes déguisés en filles parce qu'ils étaient allés là-haut mettre les fringues de. Enfin voilà, je me souviens de trucs loufoques où il y avait pas d'interdit, pas de. Et je trouve ça tellement plus simple.
Vous êtes dans une famille où vous étiez vraiment le plus petit, donc vous avez traîné très jeune avec des gens plus vieux.
Tout à fait.
Et du coup, vous étiez très mûr très jeune en fait. Ça.
Je sais pas si je pense pas être mûr hein, pour le coup. Non. Je pense être encore un gros gamin, mais j'ai toujours eu des amis. Même mes amis aujourd'hui sont plus âgés. Et voilà. Après c'est, mais ça reste même eux des grands enfants. Donc je pense que là je joue pas énormément sur la maturité. Mais quand on est humoriste, on n'est pas mature. Vous êtes mature, Anne?
Très mature.
C'est vrai?
Je suis une femme au stomum de la maturité.
Au stomum, comme on dit en Irlande.
Je suis très très mature, vous trouvez pas?
Je sais pas. Je pense que quand on est humoriste, on a toujours une part d'enfance. Regardez sur l'affiche, regardez ce sourire. C'est pas un sourire d'enfance, hein? Avec les petits yeux comme ça, hein?
Je crois qu'il vous drague.
Ouais, pas à l'abri, on n'est pas à l'abri.
On a 20 ans d'écart quand même, hein?
Oui, mais on peut se rapprocher.
Ça n'a jamais empêché personne. Hein.
C'est vrai.
Ouais, mais moi, non, alors vraiment. Mais je vous remercie, je suis contente qu'un invité me drague, mais là, non.
Oui, il y a sa mère,
je suis désolé.
Et vous êtes très proche de vos parents?
Tout à fait, on est toujours, depuis tout à l'heure.
vous nous appelez votre mère 400 fois par jour, il paraît?
Tout à fait.
C'est vrai?
Mais oui.
Pourquoi?
Bah parce que peut-être elle a changé d'une minute. Il y a une minute, elle allait bien. Mais peut-être qu'en une minute, il s'est passé un truc. Voilà. Et je pense que ça va être bien parce que, comme mes parents, ça va surprendre les gens, mais vieillissent, comme tout le monde. Ouais. Je me dis, comme je suis hypochondriaque, que c'est bientôt la fin. Donc, il va se passer un problème de maladie. Donc, il faut que je check encore plus souvent. Ouais, sinon, ça va.
Vous voulez qu'on appelle vos parents?
Allez.
Allez, on les appelle.
Allô?
Oui, Pascal?
Oui.
Oui, bonjour. Je voulais avoir des renseignements. Vous êtes bien la maman de l'humoriste, là, comment il s'appelle déjà? Arthur?
Artus, peut-être.
Comment? Artus, voilà, c'est ça.
Oui.
Oui, vous êtes sa maman?
Oui.
Vous pouvez nous donner des infos sur lui?
C'est Anne Roumanoff.
Grillé.
Putain, direct. Elle a dit que j'étais Anne Roumanoff, ça y est, elle l'a avoué. Artus, c'est Anne Roumanoff.
Vous êtes fière de votre fils, madame?
Non, c'est un boulet, celui-là.
Elle est géniale. Votre fils, c'est un boulet?
Ah oui, c'est un vrai boulet. Mais non, c'est un amour. C'est le fils à maman.
Oh. Il était drôle depuis qu'il est petit, Artus, ou c'est venu plus
oui.
tard?
Oui. Non, il y a des moments où il ne faisait pas trop rire. Mais
C'est ces moments-là qui nous intéressent.
Quand est-ce qu'il ne faisait pas trop rire? Il vous
a tu ne parles pas de quand j'ai mis mon sexe dans ma sœur et tout. Moi, j'avais bu, j'avais 6 ans.
Non, mais ça, tu le fais plus maintenant.
voilà.
Vous faisiez quoi comme métier, madame?
J'étais agent immobilier.
Ah, et vous faisiez des blagues à vos clients?
Je sais pas, mais je suis pas très douée pour faire des blagues, moi.
Ouais?
Non, j'essayais de leur vendre des maisons qui leur plaisent. Et maintenant, je travaille pour lui.
D'accord. Et c'est quoi ses défauts, Artus, alors?
Alors, ses défauts...
Eh bien, on t'embrasse. Bisous, maman. C'est cool de l'avoir appelé. Bisous.
Non, ses défauts... ses défauts, il est impatient.
Oui.
C'est pour ça qu'il fait 3000 projets en même temps, parce que quand il a beaucoup, beaucoup de projets dans la tête, et du coup, il faut qu'ils soient réalisés extrêmement vite. Ouais. Donc, nous, on pédale derrière.
Avant voilà. Pédaler.
Ouais, en pédale. Et donc, il est impatient. Non, c'est un gentil Artus. Oui, non,
il,
non,
il a bon cœur.
Ouais, c'est un vrai gentil. Non, non, c'est un vrai gentil. Mais bon. Voilà, très impatient, donc du coup, il peut s'énerver quand ça va pas assez vite.
Là, c'est long, par exemple.
Et alors, son défaut, c'est qu'il me dit toujours, elle est beaucoup trop longue, cette conversation, maman. Ouais.
Voilà. Ça, c'est le problème. C'est... Ouais, ma mère ne raccroche jamais.
Elle raccroche pas, vous
Là, j'espère que vous avez prévenu les autres animateurs de la chaîne, hein, parce que c'est vraiment...
voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Ok. Ah vous êtes absolument ravissante.
Oh mais comme c'est gentil, j'ai bien fait. J'ai bien fait de venir.
Non mais vraiment.
J'ai vu de la lumière, je suis entrée.
Vous avez l'air
vous
en pleine
très
forme.
Sympathique.
Ça vous
et le public est charmant.
Ouais. Non mais c'est incroyable cette juvénilité.
Ah oui.
Merci. Non mais vraiment.
Donnez-lui votre secret parce qu'elle essaye de faire pareil.
Elle veut comprendre.
Faut être en accord avec soi-même.
C'est ça.
Déjà.
Ouais. J'étais frappée, moi, de la sincérité de ce livre. Vous dites vraiment les choses telles qu'elles se sont passées. Et en oui, même temps, avec ça, une élégance en même temps.
C'est une description des faits. C'est-à-dire que je m'adresse aussi à tout... Par exemple, dans la première partie sur la brutalité ou ce qu'une femme subit en politique, c'est au fond ce que subissent bien des femmes. Donc je parle aussi au nom de toutes les autres. Et simplement en donnant les faits, en disant ben, « voilà comment ça se passe ». Et donc, cette brutalité ou ces attaques sexistes, ça n'a aucune raison d'être. C'est tellement choquant. Et on a tellement besoin d'une société apaisée, où les hommes et les femmes vivent en harmonie, se respectent mutuellement dans leurs différences.
Vous dites que c'est le mouvement MeToo qui vous a donné l'envie de dire tout ce que vous avez subi en politique ?
Oui, parce que je me suis aussi imposé à moi-même la loi du silence. C'est-à-dire que si j'avais raconté
vous avez encaissé
plus
tôt, sans
j'ai
rien
encaissé.
Dire.
En disant, si jamais je me plains, on va dire, bah, voyez, elle se plaint, les femmes ne sont pas solides, hein, voyez, elle manque d'humour. Oh, bah, non, mais c'était pour rigoler qu'on disait ça. Voilà, c'est...
Quand vous faites la liste, c'est quand même énorme.
C'est impressionnant,
oui. Ouais. Mais pas seulement vous dites aussi des phrases négatives dont on est victime d'autres femmes, d'autres bords politiques, oui, et c'est oui. D'une violence extrême, oui. Quand même.
C'est-à-dire qu'à une femme, on va mettre en cause, comme elles sont considérées comme des intruses, on va mettre en cause jusqu'à leur intelligence. Moi, combien de fois on m'a traité de folle ? Elle est folle. Je disais quelque chose qui ne leur plaisait pas, j'étais folle. vous voyez, c'est insupportable. Parce que ça veut dire qu'on met jusqu'en cause, finalement, la santé mentale des femmes dès lors qu'elles s'émancipent ou dès lors qu'elles...
Vous dites par exemple que quand Nicolas Hulot a pleuré, tout le monde a trouvé ça très émouvant.
Oui.
Vous dites qu'une femme qui aurait pleuré
ouais, c'est vrai.
En démissionnant, on aurait dit...
Je pense que je serais sortie du ministère en pleurant, on aurait dit non mais vous voyez, ouais. On vous l'avait bien dit, elle tient pas ses nerfs, ouais. Mais comment est-ce qu'on a pu lui confier un ministère, mais comment est-ce qu'on a pu lui confier la sécurité nucléaire, etc. Quand un homme se trompe, on dit qu'il est fatigué. Quand
il... c'est génial.
Quand une femme je me souviens, comme j'avais. Quand une femme fait une erreur, c'est qu'elle fait des bourdes.
Ouais.
Et pourquoi on dit. Pourquoi, quand je faisais des erreurs, ça m'arrivait. Un jour, je n'ai pas su donner le nombre exact de sous-marins nucléaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Et Nicolas Sarkozy lui avait confondu les sunnites et les chiites, ce qui me paraît quand même beaucoup plus grave quand on veut lutter contre le terrorisme. Et
ça c'est dit.
Et donc, moi j'étais une gourde et je faisais des bourdes parce que ça rime. Ah. Et gourde, bourde.
C'est des poètes.
Donc c'était
plus.
Insidieux comme ça.
Et, c'est chez Bourdin en général.
Quand un homme
d'ailleurs.
Faisait des. Faisait... Exactement. Ah oui, bonne pioche. Bon chez Bourdin, oui, c'est ça. Et quand c'est un homme. Non, mais il est fatigué. Non, mais il s'est levé tôt. Non, mais. C'est une erreur technique.
Ils ont toujours des excuses.
Mais jamais.
Une femme qui s'énerve.
D'ailleurs, il n'y a pas de masculin de gourde.
Ouais.
Donc, jamais c'est parce que.
Et une femme qui s'énerve, elle a mauvais caractère, elle est
oui,
hystérique.
Elle est s'énerve,
voilà,
elle est hystérique.
Alors qu'un
etc.
homme, tu le connais, c'est un homme à poigne.
Non, oui, voilà.
C'est horrible.
Tout ça, oui, c'est ça.
Vous auriez aimé être nommé ministre de l'écologie après Nicolas Hulot ou...
Non, je ne me suis pas posé la question parce qu'il y avait une volonté de changement. Je suis ancien monde, moi, vous savez, non. J'étais éjecté au nom de l'ancien monde. Ben oui.
Non mais en même temps vous
et
avez
ça,
vous
surprend. Ça vous et ça vous fait rire quand même.
Oui. Mais vaut mieux en rire.
C'est tellement bête. Et on voit d'ailleurs
mais c'est vrai
le
qu'il
manque
a...
d'expérience à quoi ça conduit hein.
Non mais exactement, et vous avez...
ce que vous disiez sur l'ancien monde. Oui, les gens inexpérimentés, c'était un problème. Vous parliez donc d'Emmanuel Macron.
Non, non, pas lui. Lui, il a un minimum d'expérience. Mais
il était prêt, président, ou c'est arrivé trop vite? Parce que quand même, finalement, lui-même ne le savait pas un an avant.
Non, c'est jamais trop vite. Tout le monde peut se révéler dans l'exercice des responsabilités. Hein. C'est pas un problème. Je crois qu'il y a un problème aussi de collectif.
Voilà. Il a pas assez de gens solides autour de lui.
Pas assez de gens différents. Vous voyez, quand tout le monde se ressemble dans une équipe, il y a des choses qu'on ne voit pas.
Et vous auriez pu lui ouvrir les yeux.
je sais pas.
Mais vous, dans votre livre, vous racontez des scènes absolument hallucinantes, comme notamment Paix à son âme et Michel Rocard qui vient vous demander en 2007 de vous retirer en sa faveur et qui a tout prévu en plus.
Oui.
Et vous lui dites, mais comment je me retire parce que je suis incompétente.
Oui, c'est fou, hein. Faut oser quand même.
Il a d'ailleurs accepté de dire que cette anecdote était vraie.
Il a dit que c'était vrai.
Il aurait pu dire,
il vient me voir, il me dit, non, mais c'était donc à 24 heures du dépôt officiel des candidatures au Conseil constitutionnel. Donc j'avais déjà une longue campagne derrière moi, j'avais déjà fait toutes les démarches participatives, les 55 000 contributions, etc., pour forger le pacte présidentiel. Et il vient me voir, donc il me dit, ouais, je pensais qu'il venait pour me soutenir, moi. Je dis, tiens, les éléphants du PS étaient restés très silencieux, m'attaquant plutôt, et je me donne la liste des attaques. Et je me dis, tiens, c'est formidable. En voilà un qui me rejoint, qui va me soutenir, qui va m'aider, etc., m'apporter sa contribution. Et non. Alors qu'il me dit, non, mais Ségolène, voilà, je suis venue te voir parce qu'il faut te retirer. Tu ne seras pas au second tour. Tu vas imploser en vol, tu n'as pas la compétence, etc.
Sympa.
Donc je dis, mais c'est quand même bizarre. Je dis, mais même, supposer même que je traverse la rue et que je me fasse écraser, lui, il ne répond pas. Il dit, oh non, Ségolène, ne te fais pas écraser. Il me fait comme ça, oui, alors tu traverses la rue, tu te fais écraser, du coup, ce serait moi aussi qui serais candidat. Donc, on a sous-entendu, on va faire comme si tu mourais, finalement. Et je prends ta place. Donc, c'était quand même très, très violent, en plus. Moi, c'est dur, une campagne électorale, on est quand même engagé corps et âme, quoi, c'est difficile. Et à ce moment-là, je lui dis, mais à supposer même que ce soit le cas, il y aurait un vote.
Ah oui.
Parce qu'il y a quand même un vote pour désigner un candidat. Alors, il avait tout prévu, parce qu'il me dit, non. Il n'y a pas de vote possible parce que le dépôt, c'est ce soir ou demain soir. C'était la veille. Le dépôt au Conseil constitutionnel, c'est demain soir. Le temps de convoquer une nouvelle primaire à gauche pour savoir quelle. C'est absolument impossible, imparable. Alors je dis, comment tu fais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Que je suis devenue totalement incompétente, que je viens de réaliser que je n'étais vraiment pas au niveau de la situation et que donc je fais appel à toi. Il me dit oui. Il me dit, voilà, tu vas lancer un appel à ma candidature, tu vas te retirer. Non, et moi, je vais déposer ma candidature.
Vous auriez été premier ministre, en fait. C'est dans son vous auriez été premier ministre.
Ah, je ne sais pas. Oh, il n'a même pas imaginé ça pour moi.
Et vous en voulez.
Non, mais c'est pour vous dire à quel point, pour ces aéropages d'hommes, le fait qu'une femme ose prétendre à la fonction suprême était pour eux, mais insupportable. C'était une transgression.
Et François Bayrou aussi.
Parce que dans leur tête, on n'est pas leur égal. On est différente, donc inférieure. Mais on apporte quelque chose de différent, mais à égalité.
Et vous en voulez à François Bayrou aussi. Vous dites qu'il a vraiment raté quelque chose.
Oui.
Qu'il aurait pu au moins être premier ministre une fois dans sa vie.
Voilà.
C'est ça.
Ah, ça clash.
Absolument. Donc je le sollicite, François Bayrou, parce qu'il arrive troisième. Donc
cette scène a vraiment existé. Vous êtes allé entre les deux tours en bas de chez lui.
En bas de chez lui. Donc j'avais rendez-vous et au dernier moment, c'était la panne. Je plaisante en disant c'était.
Vous n'avez pas pu rentrer chez lui.
Non.
Vous étiez en bas et vous ouvrez pas la porte.
Il ouvre pas la porte.
C'est très irrespectueux, ça, déjà.
Oui, mais je pense qu'il sentait que c'était presque une trahison, parce que c'est vrai qu'il avait fait toute sa campagne contre Nicolas Sarkozy. J'arrive seconde, il arrive troisième. Si on se met ensemble pour construire un projet pour la France, on gagne. Mmh. Donc je dis, il sera Matignon. En plus, ça fait une alliance avec le centre, ça ouvre les choses, ça fait des convergences, on sort du clivage traditionnel droite-gauche.
Mais il n'a pas voulu.
Non.
Vous
je
l'avez
pense
revu
qu'il n'a pas voulu parce que je pense que c'est parce que j'étais une femme. Il s'est dit, je ne veux pas être le numéro 2 d'une femme.
Mais c'est dingue, ça, ce machisme.
Et si elle est battue, peut-être que je serai président le coup d'après. Parce qu'ils jouaient tous le coup d'après. tous ceux qui m'ont appelé.
Non, non, non.
Il ne faut pas qu'elle soit élue parce que nous, on va être élus le coup d'après.
C'est que là, vous avez eu beaucoup de succès, vous avez aussi eu beaucoup d'échecs et vous êtes chaque fois relevé tel un phénix. C'est quoi le secret? C'est-à-dire, vous vous roulez en boule, vous pleurez et après vous repartez? Ou maintenant, vous avez acquis un tel recul par rapport aux choses que vous êtes devenu, vous avez tellement été attaqué que vous êtes devenu inattaquable? Ça glisse? Comment on fait?
Tant qu'on est debout, qu'on n'est pas malade, qu'on a ses deux jambes pour avancer. Ma mère me disait ça toujours. T'as encore tes deux jambes pour avancer, arrête de te plaindre, tu peux bouger par rapport à ceux qui peuvent même plus bouger. Ouais, alors c'est relatif, hein, mais c'est vrai.
Vous avez
un échec et quand on a c'est la santé, c'est ce qui est quand même le plus précieux. Sûr. Et quand on a ça, qu'on a ses yeux pour voir, ses oreilles pour entendre, ses jambes pour marcher, ses bras pour enlacer, on peut se remettre debout et se dire bon c'est un échec et on apprend souvent plus de ses échecs que de ses succès. Enfin, faut pas trop d'échecs quand même.
Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.